Hey. How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Délire !
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 107 d'Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'asso française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Verrouillez la porte de la cave, évitez soigneusement les miroirs et vérifiez bien sous votre lit. On vous emmène visiter les maisons hantées les plus célèbres des séries. Depuis le roman gothique jusqu'à nos nuits de binge-watching, en passant par le succès des productions Blumhouse au cinéma, la maison hantée occupe une place centrale dans l'imaginaire horrifique et semble constituer le catalyseur parfait de nos peurs les plus profondes.
Next one, next one, next one, next
Whoa,
one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one.
À moins qu'un esprit n'ait pris possession de moi, je suis Alexandre Bueco-Dabas des Inrecuptibles. À mes côtés, l'inquiétante Émilie Semiramotte de Télécable Sapt Hebdo.
Pardon. Salut Alexandre.
La terrifiante Anaïs Bordage de Pic TV.
Salut.
Et le maléfique Léo Moser des Inrecuptibles.
Salut Alex.
Vous aurez reconnu le générique de Bly Manor, la deuxième saison de l'anthologie The Haunting de Mike Flanagan, qui cartonne en ce moment sur Netflix. Après avoir suivi le destin tragique de la famille Crane dans Hill House, cette adaptation libre du tour d'écrou d'Henry James s'attache à Dani, une jeune nounou américaine engagée pour veiller sur deux orphelins au comportement très étrange, dans un manoir anglais. Avant de rentrer dans les détails, vous en avez pensé quoi, en quelques mots, de Bly Manor, Émilie peut-être ?
Alors, j'ai beaucoup aimé, même si j'étais un peu désarçonnée au début par trop de comparaisons en fait avec la saison 1, avec Hill House. Je cherchais trop les mécanismes de comparaison, ce qui était parfaitement idiot. Jusqu'à enfin l'épisode 5, où là, il y a une espèce d'explosion, sans forcément révéler quoi, et qui m'a voilà, enfin fait comprendre qu'il s'agissait de complètement autre chose. Et là, je suis tombée complètement amoureuse de cette saison.
Un épisode 5 qui pourtant rappelle l'épisode 5 de la première. Oui. J'ai l'impression que quelqu'un veut en parler peut-être.
Oui, mais en fait, il se focalise sur un personnage en particulier. J'espère qu'on m'entend avec mon masque. Et en fait, on apprend un peu l'origine de ce personnage. On découvre qu'il y a peut-être quelque chose de surnaturel qui la concerne. Et c'est à la fois assez effrayant et hyper émouvant, ce qui était aussi le cas dans la saison 5. On découvre un peu le mécanisme qui va débloquer en fait tout le reste de la narration, puisque à chaque nouvel épisode, ensuite, on comprendra un peu mieux ce qui se passe grâce notamment à ce personnage qui est un des premiers à révéler un peu ce qui se cache dans la maison, quoi.
Cela dit, je suis assez d'accord que l'épisode 5 est évidemment l'épisode central qui lance complètement la saison. Moi, j'avais déjà adoré Hill House, qui était selon moi la meilleure série de 2018. Je suis pas loin de penser que Bly Manor est pour l'instant la meilleure de 2020. Mais je trouve quand même qu'il y a un grand changement dès le début dans Bly Manor, où on était dans la première saison, je résumais ça grossièrement comme une espèce de combinaison entre Six Feet Under et Conjuring, quoi. Mais il y avait encore beaucoup d'effets de manche et beaucoup d'effets de style, ou qui confinaient parfois un petit peu à l'exercice de style, notamment un épisode qui était assez merveilleux, faut le dire, avec deux plans séquences enchevêtrés sur deux époques. Et je trouve que là, dès le début, on entre quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus intime et qui est beaucoup moins, un peu moins dans l'épouvante pure et le côté train fantôme qu'il y avait dans la première saison.
Est-ce que c'est pas dû peut-être au fait que, contrairement à la première saison, Mike Flanagan ne réalise pas tous les épisodes et peut-être en partage la réalisation et moins peut-être dans une forme d'esbrouf qui pouvait, qui en tout cas moi m'agaçait un peu dans la première.
Moi ça m'a manqué en fait, mais je trouvais qu'il y avait moins de cohésion dans la saison 2 et je pense que c'est en partie parce que Mike Flanagan n'est plus le seul un peu aux commandes. Je trouve que après c'est aussi dû à l'histoire de la saison 2 où en fait c'est des personnages qui se connaissent pas, tandis que la saison 1 c'est une famille, donc il y a tout de suite une cohésion énorme dans le casting, alors que là en fait chaque épisode est un peu un stand-alone dans la saison 2, beaucoup plus que dans la saison 1, où on a même vers la fin de la saison carrément toute l'origine de l'histoire, enfin de la maison qui est révélée en un seul épisode, qui est totalement déconnecté du reste.
Moi, j'ai assez trouvé... beau, cela dit. Je trouve... enfin, l'épisode
il est, 8, il est très beau, il est très très beau, et ça aurait pu être un film ou un court juste tout seul, quoi. Mais du coup, moi, j'ai bon. Après, j'ai quand même passé une heure à pleurer devant le final, hein, donc c'était réussi.
Comme tout le monde.
Voilà. Mais il me manquait vraiment l'espèce de d'orfèvrerie que j'ai trouvé dans la saison 1, où vraiment, en fait, ça a été un plaisir dès que je l'ai fini, je l'ai recommencé, et j'ai tout revu. Dans la saison 2, j'avais un peu moins ça.
On a peut-être l'impression que la saison 2 est plus une série de personnages et un peu moins de mise en scène, si on peut peut-être grossièrement résumer comme ça. Le casting de Bly Manor, il accueille à nouveau une grande partie du casting de la première saison, qui joue cette fois d'autres rôles. Et il y a quelques nouveaux aussi, qui, j'ai l'impression, ont été très appréciés. Vous en avez pensé quoi, vous, de ce casting? Est-ce que vous avez des personnages coup de cœur?
Alors moi, c'est pratiquement tous les personnages qui sont des personnages coup de cœur. C'est-à-dire que il y en a pas un qui est en dessous des autres. Et j'aime bien l'idée, comme on retrouve dans les séries anthologiques, d'avoir ce côté troupe de comédiens, d'acteurs qu'on retrouve. Et on avait ça aussi dans American Horror Story, dans American Crime. Je trouve que ça fonctionne bien. Et puis les nouveaux aussi, les nouvelles têtes. Moi, je suis tombée fan direct.
Beaucoup d'amour pour Tinia Miller.
Ah, là, et qui est formidable, qu'on avait vu dans Years and Years, qui était incroyable.
Raoul Colli, donc, ouais. Qui forme un petit peu un duo en plus.
Qui fait le cuisinier.
C'est ça, tout à fait. Et je suis d'accord, il y a un côté presque ce que Tarantino appelle les hangout movies.
Exactement,
des fois, il se passe pas grand-chose. On les retrouve dans la cuisine en train de discuter.
Et c'est l'atmosphère qui se crée entre ces personnages.
Et ça marche très très bien. Ou bien même les biturques autour d'un feu où pigolent pas mal de vin. Je trouve que c'est vraiment des moments qu'on n'avait pas forcément dans la première saison, qui étaient un peu plus dépressives, je trouve.
Oui.
Et qui, là, apportent quand même pas mal d'humanité. Et notamment ces deux nouveaux acteurs qui sont
très solides. Un peu d'humour aussi avec
Amélia
Yves aussi qui joue la jardinière. Alors je sais que jardinière n'existe pas pour désigner le féminin de jardinier, mais c'est celle qui s'occupe du jardin.
Ce n'est pas un pot.
Voilà, c'est ça. Ce n'est ni un tas de légumes cuisinés, mais elle est vraiment hyper bonne. Et après, il y a un truc qui est quand même remarquable, je trouve, dans les deux saisons, c'est qu'ils sont très très forts pour caster les enfants. Ouais. Parce que c'est généralement là-dessus que les séries et les films se cassent la gueule. Mmh. C'est sur le casting des plus jeunes. Et là, dans la saison 1, on avait des enfants extraordinaires. Et dans la saison 2, surtout bon, en fait, ils remplissent parfaitement leur rôle. J'ai oublié leur nom, mais le petit garçon est très flippant. Et la petite fille, elle est vraiment 50% adorable et 50% flippante.
Elle est perfectly splendid.
Ouais, exactement. Donc vraiment, bravo aux directeurs et directrices de casting qui s'occupent de Hunting, parce que c'est incroyable de trouver des enfants aussi bons.
Léo parlait de ces longues scènes de cuisine ou de cette très très belle scène autour du feu. Je pense aussi à une longue scène entre cette jardinière et Dani où elle va parler, enfin faire une tirade de 10 minutes sur une fleur. Est-ce qu'on a l'impression que ces séquences-là, un petit peu de stase où on n'est pas dans l'horreur pure, est-ce qu'elles donnent un petit peu la couleur de cette saison 2 justement?
Oui, effectivement, pour moi, ça reflète pas mal l'ambiance de la saison 2 par rapport à la 1, qui était vraiment autour du deuil, même de l'impossibilité de faire son deuil et des traumas très lourds. Enfin, elle était quand même très très chargée cette première saison. Et celle-ci, pour moi, elle est beaucoup plus autour de l'amour et de l'impossibilité aussi de l'amour. Il y a beaucoup d'impossibilité dans The Hunting, hein. C'est toujours se battre. Il y a beaucoup d'adversité. Et ce qui est assez plaisant, moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est la manière dont l'amour vient frapper chaque personnage. Les uns après les autres et avec un traitement assez classique et romantique en même temps dans le...
Ouais, je trouve d'ailleurs qu'on sent beaucoup l'influence, parce que c'est une adaptation libre de Henry James, de la Tour d'écrou, mais je trouve qu'on sent vraiment aussi l'influence plus large du roman gothique.
Oui.
Et même de l'adaptation Les Innocents qui avait été faite par Jack Clayton dans les années 60, il me semble, de la nouvelle de Henry James. Et d'ailleurs, le personnage qu'incarne Victoria Pedretti, son nom de famille, c'est Clayton. Je me demande s'il n'y a pas un petit hommage. Et je trouve que, ouais, du coup, ce que j'appelais le côté train fantôme de la saison 1 laisse place à quelque chose qui est un petit peu plus... atmosphérique en fait, c'est un peu plus éthéré, je trouve, dans que ça se ressent chez les personnages, mais aussi dans la mise en scène, quoi. Où j'adore le jumpscare, hein, mais je trouve que c'est bien que il y en a un ou deux quand même.
Il y en a quand même un qui est reproduit au moins quatre fois.
Qui m'avait lu une demi-crise cardiaque.
Hein. Oui, pareil,
et puis il y en avait pas non plus énormément dans la saison 1, parce que c'est un peu aussi la marque de fabrique de Flanagan, c'est qu'il y a très peu de jumpscare dans ce qu'il fait.
C'est de l'elevated horror.
Ouais, il trouve d'autres moyens de faire peur, et c'est vrai que du coup, les jumpscares, les quelques qu'il y a, sont très bien sentis.
C'était redoutable.
Ouais, voilà.
J'avais l'impression que dans la première saison, il y avait quand même, malgré son efficacité, vous aurez peut-être compris que j'ai préféré la seconde. Dans la première saison, il y avait parfois une forme d'acharnement envers les personnages, où vraiment chacun payait très très cher ses traumas, qui prenaient comme ça la forme de fantôme et tout. Est-ce que cette seconde saison, elle est plus bienveillante envers les personnages ?
Bah, par sa thématique, oui. Puisque à chaque fois il est question d'un amour qu'il faut faire naître ou qu'il faut faire perdurer contre l'impossible, ou donc du coup oui, il y a une bienveillance qui est imposée par la thématique, et en même temps il y a un côté deuxième chance aussi par rapport à la saison 1, avec le retour des comédiens qu'on avait déjà vus. Il y a ce côté-là de... Bon, t'as beaucoup morflé dans la saison 1, t'as forcé une fin un peu dramatique. Peut-être que là, on te donne un peu plus de répit et on te donne à vivre, à expérimenter quelque chose d'un peu plus apaisé, même si c'est pas non plus très optimiste. Hein, pas, non. Voilà.
Il y a quelque chose que je trouve très beau dans cette saison, en fait, c'est... pas tout le temps, mais notamment vers la fin, une espèce de renversement. Je ne vais pas déflorer, évidemment, mais c'est dans la saison 1, c'était des vivants qui étaient vraiment hantés par des morts, alors que là, on se retrouve des fois avec des fantômes qui sont hantés par des vivants et par leur vie déchue, en fait. Et il y a cette idée où... bon, il y a tout un truc avec les souvenirs aussi, mais il y a des fois où des morts se rappellent qu'ils sont morts et, d'un coup. Et je trouve ça assez beau, assez terrible en même temps. Et il y a vraiment une inversion, parce qu'il y a les moments où ils arrêtent de s'incarner en fantôme, des fois, ça toque à une porte. Et en fait, c'est quasiment l'inversion de l'esprit frappeur, quoi. Là, c'est le fantôme qui se fait rappeler dans son monde pour qu'il arrête d'embêter les vivants, plus ou moins. Et enfin, je trouve ça que c'est, pareil, une très bonne façon de réinventer la série.
C'est très poétique, très romantique. C'est ça aussi qui ramène la bienveillance et l'espèce de demi-douceur. Pas une douceur totale de la saison, mais une espèce de demi-douceur dans son traitement, je trouve.
Bah, en fait, en gros, dans la plupart des films et séries d'horreur, il y a vraiment l'idée que les monstres et les créatures sont terrifiants avant tout. Et là, ce qui est génial, c'est que les fantômes nous font d'abord peur. Et ensuite, il va les révéler de plus en plus de couches au fil des saisons et nous montrer qu'ils sont émouvants, que ça a été des vraies personnes, qu'ils ont une histoire hyper riche, hyper complexe. Et donc on finit par être ému parce qu'ils nous faisaient peur avant, alors que d'habitude dans l'horreur c'est plutôt l'inverse. On va avoir peur de ce qui devrait nous émouvoir, on va avoir des enfants maléfiques, des zombies qui sont des êtres aimés qui en fait sont totalement pervertis par la maladie, tout ça. Et Flanagan fait l'inverse, il prend des trucs qui sont monstrueux et ensuite il nous montre que c'est des personnes touchante.
Vous aimeriez voir une troisième saison du coup de The Hunting, et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être y voir ou y ressentir comme émotion? Vous imaginez qu'il pourrait aller où?
Moi j'aimerais bien qu'il s'intéresse à une autre époque que les années 80, et parce qu'à chaque fois dans les deux saisons il a fait des timelines différentes, donc s'il garde ce procédé, j'aimerais bien qu'il explore peut-être des timelines peut-être plus espacé.
Aller vraiment dans le gothique, aller fin du 19e, quelque chose comme ça, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait
au
être
moment chouette. Où ces vieilles maisons ont été construites, par exemple, quand elles sont flambant neuves.
C'est ce qui est fascinant, en fait, avec la maison hantée, qui est vraiment très bien montrée par The Hunting. C'est justement qu'on peut... C'est un générateur de récits assez incroyable, quand on peut remonter sur plusieurs époques. Mmh. L'épisode 8 le fait excellemment bien, d'ailleurs, justement. Donc, pourquoi pas encore plus de timeline, ouais.
Hé, regardez-moi ça. On y est.
Bienvenue à Key House.
Votre père n'a jamais voulu me raconter sa vie ici. Mes enfants ont besoin d'un toit.
Et il faut que ce soit ce toit-là.
Se confronter à la maison hantée peut parfois nous aider à mieux vivre, C'est souvent une trajectoire de résilience, c'est ce qu'on a vu avec Bly Manor en tout cas, et Hill House. Dans la série Lock and Key, qui a été diffusée sur Netflix il y a un an, il me semble, un an et demi, les frères et sœurs Locke, après avoir été témoins du meurtre de leur père, emménagent avec leur mère dans la maison de famille, qui est encore une fois un manoir un petit peu gothique. En explorant les recoins de la maison, ils y découvrent des clés dotées de pouvoirs magiques et réveillent l'appétit d'un démon. Alors là, on pourrait dire qu'on n'est pas réellement dans de l'horreur pure, on est sur un truc plus adolescent, et en même temps, ça utilise quand même tous les codes du récit d'horreur, les pièces cachées, les fantômes. On a vraiment l'impression dans cette série que l'horreur sert uniquement à construire une métaphore qui est celle des étapes du deuil. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve qu'on est quand même très, très loin de l'horreur dans Lock and Key. On est plus dans de la fantasy, en fait. D'ailleurs, ils font des références à Narnia, justement, pour dire non, mais là, c'est différent. Mais en fait, si, ça ressemble un peu plus à Narnia ou, je sais pas, ça va faire penser à Harry Potter ou ce genre de récit plus qu'à un vrai récit d'horreur. Et la maison, en fait... Certes, il y a un démon qui se cache dans la maison, mais c'est plus une maison magique qu'une maison hantée, je dirais. C'est des éléments un peu différents, avec effectivement des pièces cachées et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pièces, au final, sont à l'intérieur de l'esprit des personnages. Donc, on sort beaucoup de la maison, ce qui n'est pas toujours le cas dans des séries qui se concentrent justement sur un lieu hanté. Là, on en est quand même pas mal en dehors, quoi.
J'ai eu l'impression d'une forme de pédagogie du deuil en regardant cette série, ce qui m'a mise un peu mal à l'aise, parce que l'espèce de chasse au trésor, la quête des clés, c'était comme autant d'épreuves d'un jeu vidéo, et puis on arrive à l'épreuve finale, t'as gagné, t'as réussi à faire ton deuil. Je trouve ça un petit peu maladroit, moi, ce qui m'a empêché de rentrer dans l'émotion de cette série, qui est pourtant censée en déborder. Et du coup... Oui, je trouve que c'est trop construit, avec des pièces beaucoup trop apparentes, en fait.
Je suis assez d'accord avec Émilie sur le côté un peu... L'émotion forcée aussi, hein, un peu au chausse-pied à certains moments. C'est vrai que ça reste quand même une maison hantée, mais hantée de manière plutôt magique. Et je suis aussi d'accord avec Anaïs que c'est vraiment... On est dans le fantastique young adult à la Harry Potter, mais je trouve que c'est souvent un catalyseur de récit, le deuil. Dans Harry Potter, c'est le cas, par exemple. Et ouais, je trouve que la série piétine aussi un petit peu là-dedans. Après, je trouve que c'est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la comparaison avec le comics de Joe Hill, donc qui est le fils de Stephen King, qui a écrit le... Et où il y a beaucoup plus d'éléments horrifiques. Et que là, ils ont voulu vraiment adapter ça de manière très grand public et très teenage, young adult, en essayant d'effacer un petit peu les côtés, des éléments vraiment horrifiques, ce qui a d'ailleurs un petit peu causé dire des fans du comics à l'heure.
Ah ouais, la série a été un peu Netflixisée, quoi. Ouais. C'est vraiment la même palette que toutes les autres séries Netflix. Il y a un peu un côté Stranger Things à laquelle elle a été pas mal comparée, parce qu'encore une fois, c'est des ados ou des enfants. Et il y a un peu un coup de mou au milieu de la saison. Enfin, franchement, c'est un peu trop long. Ils auraient pu faire peut-être 7 ou 8 épisodes. Ça aurait été un peu plus, un peu mieux construit.
Il y a la présence de ce démon qui décrédibilise complètement le récit, quoi. Enfin, c'est pas un seul moment j'adhère à ce démon. Enfin, pardon, mais trouvez-moi un autre démon.
Ouais, elle est pas hyper terrifiante, quoi. Et puis, en plus, bon, il y a un peu le cliché de la meuf qui est super canon, mais qui mange en se goinfrant dans les restaurants. Enfin, un truc qu'on a déjà vu mille fois.
C'est un démon qui met des talons aiguilles et qui s'habille en cuir. Attention.
Ouais, voilà. Les dingues à paillettes, enfin c'est un peu ouais, c'est dommage parce que effectivement on sent tout le potentiel horrifique, mais il est jamais vraiment atteint, alors que justement on sait que le matériel d'origine était un peu plus terrifiant. Donc là ouais, c'est gentil et quoi.
Et en même temps, on a l'impression que cette série, elle se place quand même du côté, on l'a dit et c'est peut-être son défaut, de l'adolescence, de l'enfance. Mais est-ce que dans les maisons hantées, au final, toutes les peurs qui sont un petit peu qui circulent, que les personnages y ressentent, est-ce qu'elle renvoie pas justement à des peurs d'enfant? On a quand même ces effets de monstres sous le lit, de portes qui grincent, de vent dehors. Est-ce qu'au final c'est pas des peurs très très archaïques que ça agite tout ça?
Oui et non. Enfin, moi, ce qui m'amuse beaucoup dans ce style-là, c'est que effectivement à chaque fois il y a le point de vue de l'enfant, donc qui est absolument terrorisé par le monstre sous le lit ou dans le placard et autres, et qu'à chaque fois on a l'adulte blasé qui ignore tout, sauf qu'en fait c'est des archétypes. L'adulte joue à se faire peur tout le temps, et c'est ça qui est intéressant dans les bonnes fictions d'horreur. C'est l'adulte qui se rend compte de ses peurs enfantines, de ses peurs presque intestines, qui lui surgissent quasiment à la figure.
Ouais, par exemple, dans Bly Manor, ce qui est très très bien fait, c'est que justement, beaucoup de peurs sont pas enfantines. C'est par exemple la peur de l'homophobie, la peur de faire son coming out, la peur du déclassement social, par exemple, pour Miss Jessel et j'ai oublié son nom, au mec qui est joué par Oliver Jackson Cohen. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout des peurs enfantines, et c'est ça qui est assez intéressant. Effectivement, c'est le plus courant dans les récits de maisons hantées, mais on peut faire autre chose aussi si on a envie de tenter, quoi.
J'ai cette idée qui m'avait traversée l'autre fois où quand j'étais chez mes parents où les murs étaient remplis de photos et pareil chez mes grands-parents et finalement au final on a un peu l'impression que chaque maison de famille quelque part est d'une certaine manière un peu une maison hantée dans le bon sens du terme mais avec des photos souvenirs ou de proches disparus ou d'un passé finalement qui est révolu. Ou qu'alors, si elle n'est pas vraiment hantée, elle est destinée à l'être. Parce que, désolé, c'est un petit peu glauque ce que je raconte. mais en même temps, j'ai l'impression que la maison de famille, par essence, elle retient quelque chose qui... Ou les traces de quelque chose qui, de toute manière, va disparaître. Est-ce que vous pensez que ça joue dans...
Justement, moi, je vais parler d'une autre série, mais qui n'est pas du tout une série horrifique, mais qui fait penser à ce que tu dis. C'est Six Feet Under, par exemple. Ça se passe dans une maison funéraire, évidemment, et qui est hantée par la présence... Enfin, l'absence du père qui meurt dans le premier épisode et avec qui tous les personnages vont finir par s'entretenir et voir son fantôme, en fait, même s'ils se parlent plus ou moins eux-mêmes. Mais quand on parle d'un fantôme, plus ou moins ce qu'on fait, c'est se parler à soi-même, quoi. Et notamment ce sous-sol où ils embaument les morts, où il y a souvent le mort qui se réveille. Alors, c'est toujours de manière des fois un peu humoristique, des fois un peu ironique, mais... je trouve que, en plus, elle est très incarnée, cette maison funéraire Fisher & Sons. Et je trouve que ça pourrait vraiment entrer là-dedans, dans ce que c'est une maison qui est hantée par les souvenirs, par les présences, par les absences. Donc, oui.
C'est pour ça que dans Hill House, il y a aussi effectivement des morts qui sont embaumés dans la maison. Donc, ça a forcément un lien très fort avec le passé. Et moi, c'est ce que je trouve beau, en fait, dans le. L'idée des fantômes, c'est que justement, c'est des gens qui ont habité dans la maison avant nous et qui ne sont pas forcément malveillants, qui peuvent juste être là parce qu'ils chill, quoi.
Et dans le fait de décorer, d'acheter des souvenirs et de mettre des photos de famille, c'est une façon de décider soi-même de se hanter de ses propres souvenirs, de ses propres émotions et de choisir son fantôme, d'une certaine manière.
On parlait tout à l'heure un petit peu dans Lock and Key, mais aussi dans The Haunting, de la manière dont la maison hantée, c'était pas forcément uniquement un dédale physique effrayant, mais ça pouvait être aussi la projection d'un espace mental. Et il y a une série qui s'appelle Channel Zero, dont la seconde saison presque théorise un petit peu ça, alors peut-être avec maladresse, mais en tout cas pousse ce principe de façon assez extrême. Est-ce que quelqu'un l'a vu et qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai beaucoup aimé le premier épisode, qui fait un peu escape game, qui a un côté assez ludique, puisque du coup, on a plusieurs ados qui rentrent dans cette maison, et chaque nouvelle pièce est un peu une nouvelle épreuve de plus en plus terrifiante. Et j'aime bien l'idée que les pièces soient différentes selon qui rentre dedans, puisque c'est vraiment justement adapté aux peurs et aux angoisses et aux traumas de chaque personnage. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu fait penser à Sleep No More, qui est une expérience théâtrale immersive qu'il y a à New York, à Londres, où en fait tu te balades de pièce en pièce avec un masque. Et c'est inspiré de Macbeth, mais en fait il y a des acteurs qui sont silencieux, qui sont juste là dans les pièces. Et toutes les pièces sont terrifiantes et il y a un côté vraiment ludique avec des univers horrifiques différents. Et donc j'ai beaucoup aimé cet aspect dans le premier épisode de la série. Et après, je trouve que ça s'essouffle très vite. C'est un peu le problème souvent avec les récits de maisons hantées, c'est que... Il y a un nombre limité de pièces, et puis au bout d'un moment,
faut passer à autre chose. Quoi. Surtout que là, donc, Channel Zero, qui est une série d'anthologie aussi, on a l'impression qu'on peut faire que des séries anthologiques quand il s'agit de séries horrifiques, c'est vraiment adapté, enfin la première saison a été complètement adaptée d'un creepypasta, donc c'est des légendes urbaines qui circulent sur Internet, qui ont originellement sur 4chan, d'où vient le Slenderman, qui est peut-être un des creepypasta. Et je trouve que là, la deuxième saison, où on parle de maison hantée, c'est vraiment ce type d'horreur. C'est l'horreur un peu virale, l'horreur un peu foraine, genre les histoires qu'on se racontait ados autour du feu, quoi. Je trouve pareil comme analyse que le premier épisode, il est plein de promesses dans cette maison qui est un peu le contrepoint d'une maison comme Bly Manor, parce que là c'est une maison qui est une sorte de musée de l'horreur où c'est ceux qui vont aller, qui vont y projeter les choses. Donc il n'y a pas de bibelot, il n'y a pas de...
Et contrairement au baroque de The Hunting, voilà, on est vraiment dans une espèce de monolithe noir,
qui est désincarné et qui devient incarné que quand... Et puis après, après ce premier épisode, je trouve que ça piétine un peu...
Alors moi j'ai pas vu Channel Zero, donc je vais pas pouvoir commenter dessus, mais non, mais ce que je relève en vous écoutant, c'est que effectivement la maison hantée elle ne fonctionne que dans l'anthologie. On n'a pas de vraie série qui dure sur 2, 3, 4, 5 saisons autour d'une maison hantée. Et finalement, ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Léo, c'était Six Feet Under avec cette maison qui est un personnage à part entière et qui constitue un peu un espèce de semblant de maison hantée, qui exploite un peu ce genre d'une manière en filigrane en tout cas.
C'est un concept qui peut pas vraiment durer sur le long terme parce que, au bout d'un moment, t'as épuisé un peu. Même si, par exemple, on faisait une génération différente de la même maison par saison, ce serait aussi un peu une forme d'anthologie. Mm-hmm. Après, ce qui est intéressant dans cette série et aussi dans Lock and Key et Hill House, par exemple, c'est les parents qui perdent les pieds. Qui perdent les pédales plutôt. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, surtout dans Channel Zero, c'est l'idée du père qui était une figure vraiment aimante pour l'héroïne et qui se transforme en méchant, en psychopathe qui tue tout sur son passage. Il y a un côté vraiment extrêmement terrifiant dans ce concept-là, et c'est ce qu'on retrouve dans Lock and Key avec la mère qui est alcoolique. Et dans Hill House avec la mère dont on ne sait pas trop si elle a des problèmes de santé mentale ou si
et
elle
est... Et le père d'ailleurs, on en vient à douter de la santé mentale du père.
Voilà, et on ne sait pas s'il a été violent lui-même avec sa femme ou pas du tout. Et ça, je trouve que c'est un des concepts les plus intéressants de ces séries-là, c'est vraiment de pervertir la figure parentale et on a du coup des enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes dans une immense maison avec du bois sombre et des grands escaliers et qui ne savent pas quoi faire.
On a une autre série d'anthologie bien connue dans laquelle les parents, mais pas que, dans laquelle tout le monde perd pied justement, dans laquelle tout le monde pète un câble. C'était la première saison d'American Horror Story, donc revisite de la maison hantée dans le plus pur style Ryan Murphy, à la fois baroque, queer, cruel, drôle, complètement foutraque. Vous, quel souvenir ça vous en a laissé? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes retourné des fois?
Je pense que déjà, il faut préciser que les anthologies d'horreur modernes dans les séries ne seraient sans doute pas aussi prévalentes s'il n'y avait pas eu American Horror Story, puisque évidemment, il y avait des anthologies avant, comme La Quatrième Dimension. Mais c'est vraiment Ryan Murphy qui a remis ça au goût du jour.
En 2011, non là...
En 2011, exactement. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand la saison 1 s'est terminée, personne ne savait que ce serait une série d'anthologie. Et donc, tout le monde a été choqué de voir que tous les personnages principaux quasiment se faisaient tuer les uns après les autres. On se disait, mais comment ils vont tenir sur une deuxième, une troisième saison. Et une fois que la saison s'est terminée, Ryan Murphy a révélé que le casting reviendrait pour une autre saison qui n'aurait rien à voir avec la première. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'anthologies d'horreur se développer dans le monde des séries. Donc, il faut quand même rendre à César. Voilà, c'est en grande partie grâce à Ryan Murphy qu'on a toutes ces séries aujourd'hui.
Moi, j'en garde un souvenir foutraque, comme tu disais, de cette première saison avec tous ces artifices qui étaient utilisés, puis qui marchaient pas très bien pour moi. Enfin, je tombais pas dans les pièges de l'horreur qu'ils voulaient mettre en place, sauf un tout nouveau qu'il avait mis en place et moi qui me fait peur encore à ce jour. C'est le fameux Rubberman qui hantait d'une certaine manière cette maison et qui était une espèce d'invention très Ryan Murphy-esque, tout à fait redoutable.
Joué par Zachary Quinto.
Alors moi j'étais un peu rouillé sur la première saison de American Horror Story parce que j'avais jamais continué à suivre, je suis pas fan de Ryan Murphy. Et du coup là j'ai re-regardé les premiers épisodes et je trouve que ça a quand même sacrément vieilli.
Bon, ah oui,
9 ans c'est pas long mais pourtant quand même. Après avoir vu Bly Manor, je trouve que c'était bon, on n'est pas du tout sur le même registre. Moi c'est ce côté toujours parodiste dont je suis pas fan. Je trouve qu'il y a une espèce de surplombage ironique sur tout ce qui essaye de raconter. Je comprends que ça puisse vraiment plaire. Moi, c'est quelque chose qui me sort complètement, en fait. J'adore les histoires incarnées où l'auteur y croit autant que le spectateur, en fait. Et je trouve que ce surplombage qui est présent, Ryan Murphy triture énormément les genres, il joue, il y a un rapport ludique, me laisse un petit peu froid, quoi.
Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand même dans cette maison, il procède à une espèce de... il utilise la maison hantée quelque part pour révéler l'inconscient, les pulsions des personnages et pour comme une espèce de gros défouloir pour un peu détruire la famille américaine typique, hétéro, blanche,
bien sûr,
machin.
Tout le côté queer qu'il y a dans le travail de Ryan Murphy, je trouve ça extrêmement intéressant. Après, moi, c'est beaucoup plus formel, en fait. Ce qui me dérange, c'est ce côté catalogue de tout ce qu'on a vu dans l'horreur depuis la naissance du cinéma, quoi. Je trouve que du coup, à force de tout enchaîner, rien ne prend vraiment corps. Même si je trouve, théoriquement, j'adore lire des articles sur Ryan Murphy. Je trouve ça génial. J'adorerais lire une thèse sur Ryan Murphy. Par contre, j'aime pas regarder ce que fait Ryan Murphy.
Disons qu'il y a un style assez putassier, caractéristique de Murphy, qui tend un peu à se styliser avec le temps, avec la pratique aussi. Je pense que le fait qu'il réalise de plus en plus, ça rentre en ligne de compte. Je pense que ça modifie aussi sa manière d'écrire. Mais c'est vrai que sur la première saison d'American Horror Story, c'était un peu too much.
Moi, j'adore. Je me sens vraiment seule. je trouve que American Horror Story, ça fait partie des meilleures productions de Ryan Murphy. J'aime pas du tout ce qu'il fait avec Netflix. Je trouve ça totalement aseptisé. Et j'adore le côté foutraque d'American Horror Story, surtout ses premières saisons. Et effectivement, c'est totalement putassier. Mais j'aime bien justement que ce soit assumé. C'est camp, c'est queer. Et en plus, il y a un côté grand guignol qui aussi fait partie de la tradition de l'horreur.
Il y a une forme de générosité, en fait.
Ça, il est très généreux comme gars.
Ouais, surtout avec le gore et... Non, mais je trouve que c'est juste hyper divertissant et je me souviens vraiment de ce que j'ai ressenti à l'époque où c'est sorti, où justement, en étant fan de l'horreur, j'étais contente de voir une sorte de catalogue un peu de tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur et de le voir là sur ma télé avec des grandes actrices, avec un casting que j'aimais. Mais c'est vrai que c'est totalement Train Fantôme comme série, c'est vraiment...
Est-ce que t'as déjà eu peur en regardant American Horror Story ?
Ouais, déjà, les génériques me font très peur.
Oui.
Mais moi, je suis très peureuse, en fait.
C'est vrai, les génériques sont pour le coup géniaux. Ouais, j'adore les génériques.
Ouais. Et non, je me souviens, le pilote m'avait fait peur parce que il y avait, tous ces procédés quand même assez communs. On rentre dans la maison, il fait sombre, il y a quelques petits jumpscares, il y a beaucoup d'éléments quand même très perturbants. Et c'est ça que Ryan Murphy fait très bien aussi. C'est qu'il joue très bien sur le côté, plus choquant de l'horreur sur les questions sociales, où ça me fait un peu penser à Cronenberg aussi, qui va vraiment loin dans le dégueu, mais c'est ça qui choque aussi, et il y a un vrai propos derrière, et lui, ce qu'il veut faire, c'est vraiment exacerber justement toute l'horreur de l'histoire américaine, le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., à travers des scènes qui sont putassières, mais qui du coup, il n'y a aucune retenue, et moi j'adore ça.
Dans à peu près toutes les séries dont on a parlé, la maison hantée, c'est quand même un vieux manoir baroque avec des portes qui grincent, des caves, des tableaux. Est-ce qu'une maison moderne, ça peut pas faire peur ? Est-ce qu'un appartement, ça peut pas faire peur ? Surtout après deux mois de confinement, voire avant d'autres mois de confinement.
Si, ça marche. Mais c'est pas une référence réelle, mais Poltergeist, le film, c'était dans une maison moderne.
Ouais.
Je crois que c'était un lotissement tout neuf, construit sur un ancien cimetière, un truc...
Ouais, il y a eu mais c'est plus des films effectivement qui vont jouer là-dessus.
En série, quand même.
Ouais, dans les séries, il y a moins ça, mais c'est vrai que récemment il y a eu Invisible Man, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait.
Ouais, qui était très bien d'ailleurs.
Ouais, et le moment qui fait le plus peur, c'est vraiment la séquence d'ouverture qui est dans une maison ultra moderne où justement, qui est totalement glaciale et où il y a aucun endroit où se cacher.
Qui est plus flippante que certains manoirs.
Ouais, voilà, parce que vraiment, c'est une femme qui essaye de sortir d'une relation abusive et en fait. Il y a des murs de glace, des grandes baies vitrées partout. Enfin, il y a rien. En fait, elle peut se cacher derrière aucun meuble, aucun objet. Donc, il y a un côté vraiment très flippant là-dedans qui a été bien exploité. C'est vrai que dans les séries, il y a pas de ça.
Justement, quand même, pour revenir sur la série, moi, j'aimerais évoquer Ju-On Origins parce que pour le coup, ça se passe pas dans des manoirs et parce que c'est vraiment là les codes du cinéma d'horreur japonais.
C'est un préquel de la franchise.
Ouais, c'est un préquel et en même temps, c'est assez compliqué, mais déjà le récit de fantôme au Japon, il est quand même très différent en Occident. Et il est présent dans le shintoïsme, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc ce qu'on appelle les kaidan eiga, donc les histoires de fantômes qui ont été démocratisées au cinéma par Ring de Hideo Nakata ou Darkwater ou justement The Grudge.
The Grudge.
Et The Grudge est en fait s'insère dans la licence Ju-On, mais c'est quand même le remake américain plus ou moins du deuxième. Et donc c'est une série, il y a 10 films à peu près de Ju-On. Et là donc c'est Ju-On Origins. Donc c'est plus ou moins préquel. Après, je suis pas assez calé pour tout savoir, mais j'ai trouvé la série intéressante quand même. Parce que justement, on a ces codes-là, et ça se passe souvent dans des pavillons un peu vétustes de la banlieue de Tokyo, ou même des appartements insalubres. Il y a toute une dimension sociale aussi, parce que ils sont souvent... pauvres, les personnages, enfin, ils sont en difficulté financière. Et ça parle aussi beaucoup des violences que subissent les femmes et les enfants au Japon et de la façon dont ils se... En gros, l'idée principale, c'est que quand il y a un meurtre violent qui est commis dans une maison, l'esprit l'esprit vengeur en fait va hanter le lieu et jeter une malédiction sur tous ceux qui vont pénétrer dans ce lieu-là. Et c'est le cas donc dans Ju-on Origins où ça part en fait d'un mari qui tue sa femme et son enfant. Donc il y a quand même une dimension sociale et en plus une manière de faire peur qui est assez différente. Enfin, on connaît les codes maintenant grâce à Ring et tout, mais les cheveux devant le visage, les démarches saccadées, des visages déformés par l'effroi. Et je trouve que c'est justement on verrait mal en fait une fiction japonaise d'horreur avoir lieu dans un manoir gothique comme ça. C'est toujours dans des lieux qu'ils arrivent à rendre vraiment ultra flippants, alors que c'est des lieux communs de tous les jours.
La carte blanche de l'ACS.
C'est le moment du coup de cœur. Aujourd'hui, c'est Anaïs qui s'y colle. Et Anaïs, tu as choisi de nous parler de Warrior, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. J'ai un gros coup de cœur en ce moment pour Warrior, dont la saison 2 est diffusée actuellement sur OCS. Et en gros, pour résumer un peu grossièrement Warrior, bah, c'est une série de kung-fu, d'arts martiaux. Mais c'est un peu plus que ça. En fait, ça se passe à San Francisco dans les années 1870. Pendant la guerre des Tongs, donc en gros les affrontements entre différents gangs rivaux à Chinatown, à San Francisco. Et du coup, on suit le personnage de Assam, qui lui aussi est un Chinois qui débarque à San Francisco et qui intègre un de ces Tongs et qui va se retrouver un peu pris dans cette guerre et qui va devoir beaucoup se battre dans de très belles scènes d'action. Et en gros, la série aborde, à travers ce côté un peu divertissement, le racisme auquel ont fait face les immigrés chinois à l'époque à San Francisco et dans le reste des États-Unis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était un concept original de Bruce Lee, à la base, qu'il avait développé dans les années 70. Et qu'il avait proposé à la Warner, et il voulait incarner le rôle principal, et ça s'appelait The Warrior. Et en fait, la Warner a refusé, et selon les proches de Bruce Lee, il lui a piqué l'idée pour créer une série qui s'appelait Kung Fu, avec David Carradine, qui jouait donc le petit scarabée. Et donc, dans le rôle qu'on avait refusé à Bruce Lee à cause de son accent. Donc Bruce Lee n'était pas considéré comme assez... américain en gros pour jouer le rôle, alors que c'était un rôle de moine Shaolin, donc joué par David Carradine. Et donc des décennies plus tard, après cette humiliation vécue par Bruce Lee, c'est sa fille Shannon Lee qui a récupéré le traitement original créé par Bruce Lee et qui a décidé de produire la série avec Justin Lin, qui est connu pour la saga Fast and Furious notamment. Et du coup, voilà, on a une dimension quand même sociale assez intelligente, assez intéressante sur le traitement réservé à ces personnes. Et en même temps, on a des énormes scènes d'action qui sont vraiment super bien réalisées et super bien exécutées. Il faut savoir que l'acteur principal qui s'appelle Andrew Koji est aussi cascadeur et spécialisé dans les arts martiaux. Donc c'est lui qui fait lui-même toutes les scènes de baston. C'est impressionnant. Il y a aussi un épisode qui rend hommage au western, qui est un peu dissocié du reste de l'intrigue et qui se passe dans un saloon, puisque ça se passe dans l'Ouest dans les années 1870. Donc c'est vraiment une pépite visuelle et narrative que je vous recommande. En plus, on ne sait pas vraiment si la série va continuer, parce que Cinemax, qui produit la série, va arrêter de faire du contenu original. Donc si vous voulez quand même rattraper les deux premières saisons, elles sont sur OCS et franchement, ça vaut le coup.
Un épisode déjà arrête, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Léo Moser, Anaïs Bordage et Émilie Semiramoth, ainsi qu'à Jason et Théo à la technique et à notre partenaire Beta Série. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 108 consacré aux présidentielles américaines. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter pour réagir et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, les pages de l'émission, mais aussi celles de l'ACS.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.